Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Aujourd'hui, nous allons parler de la participation des femmes et des jeunes à la politique en tant qu'acteurs clés du développement. Quel impact cela pourrait-il avoir sur la gouvernance? Leur implication peut-elle améliorer la livraison des services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'hygiène et l'assainissement? Ne serait-ce pas un meilleur moyen d'améliorer la prise en charge des besoins spécifiques de ces couches? Pour répondre à ces questions, nos invités sur ce plateau sont Mme Boiré Bintoufoune Samake, présidente de Wildaf Mali, Dr Badie Ima, directeur exécutif de NDIA. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Au Mali, les femmes et les jeunes s'intéressent-ils à la politique? Nous allons commencer avec vous, Madame Boiré. Que pensez-vous de cela?
Merci beaucoup à Studio Tamani de nous faire l'honneur de pouvoir nous exprimer sur ce sujet. Je dirais que les femmes et les jeunes s'intéressent à la politique. Parce que à comment ils s'intéressent, ça c'est une autre question, mais quand même, ils sont présents sur la scène politique. Ils animent la scène politique et ils sont mobilisés et par les politiques aussi. Donc je dirais que les femmes et les jeunes s'intéressent à la politique au Mali.
D'accord. Et vous, Monsieur Ima?
D'abord, bonne fête à toutes les femmes maliennes et à tous les hommes et à la société malienne dans son entièreté pour tout ce qui se fait et va se faire aujourd'hui en l'honneur à la femme. Je pense que c'est important. Et par rapport à la participation politique des femmes et des jeunes, et ce qu'on constate aujourd'hui, que ce soit au niveau local, au niveau national, à travers les organisations de la société civile, à travers les partis politiques, de plus en plus, les jeunes et les femmes occupent la place qui leur revient en droit, nonobstant des difficultés et des défis majeurs qu'ils rencontrent, que nous allons analyser aujourd'hui.
D'accord. Alors, Madame Boiré, vous avez fait mention d'une question. Comment est-ce que les femmes et les jeunes sont impliqués dans la politique?
Les femmes et les jeunes sont impliqués dans la politique. Si nous faisons une analyse sincère, c'est que aujourd'hui, en matière de politique, quand vous regardez l'ensemble des partis politiques aujourd'hui, les jeunes sont en train de créer les leurs. Il y a beaucoup de partis politiques aujourd'hui sur la scène malienne qui sont gérés par des jeunes. Mais très peu de partis politiques sont gérés par des femmes. Parce que créer un mouvement et l'animer est un véritable défi. Et les femmes souvent se retiennent parce qu'il s'agit de pouvoir s'investir physiquement, intellectuellement, mais s'investir financièrement aussi pour faire vivre un mouvement. Donc, les femmes rencontrent ces défis. Donc, maintenant, où est-ce que ces femmes sont? Elles sont dans ces partis politiques qui sont créés par les jeunes et les hommes. Et elles mobilisent, elles animent au sein de ces partis politiques. Donc, voilà un peu comment les femmes et les jeunes, on les retrouve au sein sur la scène politique au Mali.
D'accord. Partagez-vous cet avis, M. Ima, concernant l'implication des femmes dans la politique? Comment est-ce qu'elles sont impliquées, les femmes et les jeunes?
Je partage, l'opinion de Mme Boiré. Ce que je vois au quotidien, et parce que au NDI, nous sommes en partenariat au quotidien avec les partis politiques. Je vois au quotidien les jeunes femmes ou hommes, les jeunes femmes ou les jeunes hommes qui prennent leur place, comme je disais tantôt. Mais c'est clair que il y a des difficultés et je voudrais surtout m'apesantir sur les difficultés. les difficultés, notamment quand on voit les partis politiques, au niveau des partis politiques, comment donc les jeunes ont la parole et au niveau de l'instance dirigeante des partis politiques. Et je vois, par exemple, et dans chacun de nos partis politiques, le mouvement des femmes et l'organisation des femmes du parti. Je vois et l'organisation des jeunes du parti, et les femmes s'activent à l'intérieur de ce mouvement, les femmes, les jeunes également. Je me rappelle au début comment on en est arrivé là pour aider les jeunes et les femmes à s'assumer, à être actifs à l'intérieur des organes ou des appareils des partis politiques. Mais à l'épreuve de l'expérience, j'ai comme l'impression que les partis ont créé ces mouvements des jeunes ou ces mouvements des femmes. Cela a tendance à les éloigner de la centralité de la prise de décision. Et ce que nous voulons voir, c'est que au niveau du bureau politique national, qui est des jeunes, qui est des femmes, peut-être la parité, peut-être les 30%, mais cela va encore augmenter en tout cas les chances et les opportunités de développement personnel de ces jeunes, de développement personnel des femmes, mais surtout et surtout que dans la politique nationale et dans le projet de société du parti politique ou dans le projet de gouvernance, que les questions liées aux droits de la femme, aux droits des jeunes, soient véritablement intégrés dans l'ensemble des plateformes. Parce que tant que le jeune il est loin de l'espace de prise de décision, tant que la femme elle est loin de l'espace de prise de décision, il y a de fortes chances que les préoccupations de la grande masse et de la majorité de la grande masse des femmes ou des jeunes ne soient pas véritablement prise en compte. Et je pense que c'est un souci, c'est une préoccupation que les acteurs politiques doivent essayer de régler.
D'accord. Alors, Madame Boiré, vous avez parlé des défis au sein de ces scènes politiques-là, mais selon vous, est-ce que les femmes et les jeunes sont conscients de ces défis-là dans ce domaine?
Oui, les jeunes et les femmes sont conscients de ces défis. Mais pour les relever, c'est là où se trouve toute la question. Parce que, comme je vous l'ai dit, je dis qu'au Mali, généralement, les femmes adhèrent à des partis politiques, non pas parce qu'elles se sont appropriées la vision et la mission de ces partis politiques, mais par, je dirais le plus souvent, par suivisme, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'un tel m'a sollicité ou bien un tel fait partie de ce groupement, etc. Donc, j'y adhère. Et souvent, elle ne maîtrise pas beaucoup l'essentiel de ce qui se passe dans ces partis politiques. Donc, c'est pour dire qu'il y a plus de suivisme que de conviction à aller vers un projet de société et pouvoir vraiment s'investir pour réaliser ce projet. Et les jeunes aussi, dans ces partis politiques aujourd'hui, le constat est que les jeunes se sont investis dans ces partis politiques parce que nous sommes confrontés à une conjoncture sociale très difficile aujourd'hui. Et il y a le chômage des jeunes diplômés. Donc, l'investissement de l'arène politique pour les jeunes est comme une opportunité pour se faire valoir, ça c'est d'un, mais aussi pour ne pas rester à ne rien faire. Et ce qui fait qu'on trouve beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette conviction de pouvoir animer réellement ces partis politiques, défendre le projet de société, mais de se faire une place. De se faire une place parce qu'aujourd'hui, la donne a changé. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que quand vous militez, vous vous faisiez voir dans un parti politique, vous faisiez remarquer dans un parti politique, et lorsque le parti parvient à avoir vraiment une position stratégique au sein du gouvernement, vous êtes valorisé. Et les jeunes souvent trouvent que c'est le chemin le plus court pour se faire valoir et pour pouvoir accéder à un mieux-être.
D'accord. Alors, Monsieur Ima, Madame Boiré nous parle de suivisme que de conviction. Quelle est votre analyse par rapport à cela?
Je suis un observateur au quotidien de l'espace politique et social malien. Et je crois que, et je vois au quotidien des femmes engagées qui ont la conviction. Je vois au quotidien des jeunes engagés qui ont la conviction. Et j'ai l'occasion et l'opportunité heureuse de partager des moments de discussion avec eux dans le travail que nous faisons avec les partis politiques. J'ai vu à quel point, notamment dans les dernières réformes engagées et par l'État du Mali, notamment les réformes constitutionnelles, à quel point chaque Malienne, chaque femme malienne, chaque Malien était intéressé par des débats qui peuvent être considérés comme des débats assez abstraits, assez éloignés du quotidien de la vie, comme des réformes constitutionnelles. Pour moi, les jeunes et les femmes, je vois et je trouve beaucoup plus, je vois chaque jour de l'engagement et de la conviction.
Mais est-ce que... Ok, allez-y.
Mais maintenant... Pour moi, la démocratie, on peut la définir, elle est participative ou elle ne l'est pas. Une démocratie ou une gouvernance démocratique qui ne donne pas de la place et de la voix à toutes les catégories socio-professionnelles perd de sa légitimité, perd de ses fondements. Et voilà, et c'est dans ce sens, je pense que dans la gouvernance démocratique, on doit trouver de la place pour les jeunes, de la place pour les femmes. Elles constituent ces deux catégories sociales, près de 70% de la population. Comment on peut engager des politiques publiques de développement, des politiques favorables aux secteurs sociaux de base, sans donner de la voix, sans donner de la place aux jeunes et aux femmes? Je pense que c'est extrêmement important. Et quand on est élu au niveau local ou au niveau national, vous avez la légitimité. Mais l'élu, qu'il s'agisse du maire ou du député, n'a pas la science infuse pour soupçonner, pour sentir les besoins des femmes, pour soupçonner ou pour sentir les besoins des femmes, pour intégrer les besoins des femmes et des jeunes dans les politiques publiques. Nous avons besoin que les jeunes parlent. Nous avons besoin que les femmes parlent. Nous avons besoin que les femmes soient là. Nous avons besoin que les jeunes soient là. On ne peut pas décider du bonheur de quelqu'un à sa place. Et je pense que, de manière irréversible, le Mali, lentement mais sûrement, est en train de s'orienter vers cette voie. Et le fait que je vois chaque question politique, chaque question sociale, chaque Malien aujourd'hui se sente sans que c'est une question personnelle. Je pense que il y a du progrès en profondeur qui est en train de se construire de ce point de vue-là. Je suis résolument optimiste et à court, à moyen, à long terme. Et sur cette question-là.
D'accord. Mais selon vous, quel est le taux, le pourcentage des femmes et des jeunes engagés dans la politique au Mali?
Je pense que le taux, quand on voit par exemple l'élection présidentielle, le taux de participation au vote des femmes était très très élevé. Mais participer au vote ne suffit pas. Il faut qu'elles occupent les places. Et j'espère et je crois avec, en tout cas, le consensus que les Maliens ont trouvé tout autour de la loi des 30%, les prochaines élections, on va avoir des avancées assez significatives. Et à partir des élections à venir, et voilà pourquoi il faut que les jeunes et les femmes se mobilisent dès cet instant, à ce moment précis, avec cette loi, de manière irréversible, il va y avoir beaucoup de femmes à l'Assemblée, il va y avoir beaucoup de femmes dans les conseils communaux. Déjà, les dernières élections ont marqué une évolution assez significative, mais je pense que ça va, on va avoir un grand boom à l'occasion des élections de 2018.
D'accord. Et vous, Madame Boiré, avez-vous une idée du taux de pourcentage des femmes et des jeunes engagés?
Je n'ai pas un pourcentage des jeunes et des femmes engagés, mais je dirais que c'est très peu. Très peu en ce sens que quand vous regardez le paysage politique, les partis politiques qui mobilisent les jeunes et les femmes, rares sont les partis politiques qui s'engagent dans la formation de leurs militants. Et aujourd'hui, quand vous demandez à un parti politique, on en a plus de 200 au Mali, quand vous demandez à un parti politique le nombre de vos militants, on ne le sait pas. Et un parti politique doit pouvoir former ses jeunes, ses cadres, doit pouvoir aussi faire en sorte que ses militants soient engagés. Vous n'entendrez pas de renforcement de capacité ou de vulgarisation du projet de société d'un parti politique que quand nous sommes à la veille des élections. Et quand vous êtes dans un parti politique, pour moi, c'est un engagement de tous les jours. Et pour pouvoir vraiment faire en sorte que nous puissions, que le parti politique puisse porter ses idéaux et avoir l'adhésion des populations pour lesquelles nous sommes en train de nous battre. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce paysage politique, vous allez voir qu'il est très difficile en République du Mali aujourd'hui de pouvoir porter un objectif commun dans un parti politique et l'atteindre. Je m'exprime. Le chef de l'État actuellement s'était donné comme objectif de pouvoir faire adopter une loi sur la promotion du genre. Et cette loi sur la promotion du genre a rencontré de très grosses difficultés qui ne s'expliquaient même pas. Et depuis que l'Assemblée du Mali a été créée, c'est la première fois où une loi a été adoptée à bulletin secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les députés qui étaient là ne voulaient pas qu'on sache qui a voté pour ou contre cette loi. Moi, je pense que ça met en doute l'engagement de ces hommes et de ces femmes qui militent au sein des partis politiques. Parce que quand mon parti politique me dit « c'est ça notre option, nous voulons qu'il y ait une loi sur la promotion du genre », moi, je soutiens parce que c'est un engagement de mon parti politique. Et si c'est un engagement de mon parti politique, je ne dois pas me cacher pour pouvoir voter cette loi. Donc je pense que c'est un manque de conviction, un manque d'engagement. Et là aussi, les jeunes et les femmes qui animent ces partis politiques, rares sont ces femmes et ces jeunes qui font des propositions et qui mobilisent pour que ces propositions puissent aboutir. Donc ça veut dire que quelque part, il y a cette insuffisance, non seulement d'éducation à la vie du parti politique, mais aussi il y a cette insuffisance des leaders de ces partis politiques à pouvoir faire adhérer et mobiliser leurs membres dans le projet de société qu'ils proposent. Bon, comme il a dit la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle a mobilisé les jeunes, c'est vrai. Ça a mobilisé des jeunes, mais ça concernait tout le monde, ça concernait des jeunes et des femmes, ça a mobilisé. Mais on était arrivé à un moment où on se demandait où est-ce qu'on allait, parce qu'il y avait des jeunes et des femmes qui se sont mobilisés aussi pour dire « nous voulons que ce projet passe ». C'était arrivé. Et on se demandait, nous qui sommes de la société civile, on se demandait où est-ce qu'on est en train d'aller. Et heureusement que jusqu'à présent au Mali, nous avons des structures traditionnelles qui ont pu vraiment s'investir pour désamorcer cette bombe. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est à la formation des militants, à leur encadrement et à l'appropriation par ces militants du projet de société qu'un parti politique veut défendre pour le bonheur des populations.
Alors, monsieur Imaka, vous voulez répondre aux propos de madame Boiré?
Non, je ne suis pas là pour répondre à ma soeur et collègue madame Boiré, mais beaucoup plus pour la compléter.
Oui.
Et pour moi, la démocratie est toujours et partout une gestation douloureuse.
Mm-hmm.
Et comme la femme qui enfante. Et le bonheur, c'est quand le bébé est là. Le bonheur, nous avons aujourd'hui les 30%.
Mm.
Ce qui s'est passé comme contradiction ou comme dispute politique, pour moi, c'est derrière.
Mais est-ce que vous pensez...
L'essentiel, c'est que et le gouvernement du Mali et le Parlement ont travaillé, bien évidemment, en relation avec l'ensemble des organisations de la société civile. Aujourd'hui, il y a une loi, il faut aller de l'avant.
Mais est-ce que vous pensez que cette loi est réellement appliquée?
Mais je pense que la loi, elle est récente.
Mm-hmm.
Et le vrai test,
2015.
Ce sera les élections de 2018. Le vrai test, ce sera les élections de 2018 et je n'ai aucun doute qu'elle sera pleinement appliquée. Pourquoi? Parce que les listes, c'est ça que dit le texte, les listes qui ne respecteront pas les 30% seront rejetées. Donc il n'y a même pas de doute là-dessus et donc il faut vraiment regarder vers le futur. Le futur, c'est quoi? Des femmes qui seront dans les espaces de prise de décision. Des jeunes et des femmes qui seront au Parlement, qui seront dans les conseils communaux. Comment renforcer leur capacité pour que la femme élue communale marque et l'originalité de la gouvernance genre sensible? Parce qu'elle a une sensibilité sur les questions sociales. Comment elle peut contribuer à améliorer les PDSEC, à améliorer l'offre des services sociaux de base au niveau local. Mais je dois dire et ajouter, l'engagement politique, ce n'est pas uniquement au sein des partis politiques. L'engagement politique, c'est aussi à travers la vie des organisations de la société civile, des organisations communautaires au niveau communautaire, au niveau rural, au niveau de la commune. Quand les jeunes s'organisent à travers des organisations formelles pour dialoguer avec le conseil communal, pour influencer le conseil communal, pour que le conseil communal prenne en compte les préoccupations des jeunes de la commune, je pense que en ce moment-là, nous allons avoir une gouvernance centrée sur les secteurs sociaux de base.
Oui.
Le NDI est en train d'expérimenter. C'est une expérience pilote assez extraordinaire dans les communes de Sio, Tosoni et Konyakari, où nous avons appuyé les jeunes de ces trois communes à avoir un cadre formel de dialogue et de discussion avec le maire, avec le conseiller communal, pour prendre en compte les préoccupations des jeunes, pour le cas des jeunes. Mais aussi, on a organisé aussi les jeunes femmes et là, depuis que nous avons commencé cette initiative, j'ai vu des maires ouverts, j'ai vu des conseillers communaux ouverts et qui ont compris que l'exercice de la gouvernance, c'est une communication permanente avec les jeunes, avec les femmes, avec les communautés, pour intégrer leurs préoccupations dans les PDSEC et dans les politiques publiques au niveau local. Et encore une fois de plus, la gouvernance, elle est locale ou elle ne l'est pas. Et parce qu'on parle de la démocratie, où est-ce que nous avons des indicateurs pour mesurer la qualité de la gouvernance au Mali, au Niger ou dans tous nos pays? C'est au niveau local où on peut évaluer la qualité ou la quantité des services sociaux de base qu'un conseil communal est capable, durant son mandat, d'offrir à ceux-là qui les ont élus.
D'accord. Alors, Madame Boiré, selon vous, quel impact leur participation peut-il avoir sur la gouvernance d'un pays, surtout au Mali?
C'est un impact positif. Positif en ce sens que aujourd'hui, au Mali, nous avons plus de jeunes. Et quand les jeunes décident de s'investir, c'est pour pouvoir proposer des stratégies novatrices. Parce que quand vous regardez un peu le paysage politique au Mali, nous pouvons dire que les grands partis politiques, les têtes sont vieillissantes. Et souvent, il y a de ces changements qui se passent à travers le monde qu'il faut rapidement saisir des opportunités. Et ces jeunes ont ce réflexe. Parce que, comme certains souvent aiment à le dire, c'est des jeunes des réseaux sociaux et qui peuvent facilement communiquer avec le reste du monde et pouvoir s'investir. Mais ce qui bloque cette avancée des jeunes, c'est que souvent, ces jeunes manquent d'éducation politique. Badje a eu à le dire, l'exemple qu'ils sont en train de mener à Conakry, c'est qu'ils ont renforcé les capacités de ces jeunes. Et ces jeunes, quand ils ont été renforcés, se sont investis pour pouvoir vraiment aller avoir une gouvernance locale qui est positive. Et là, je pense que les jeunes ont surtout besoin de ce renforcement de capacités, de pouvoir comprendre les enjeux qui se posent à l'heure actuelle et de pouvoir s'investir pour relever, pour pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Donc, si les jeunes s'investissent au niveau de la gouvernance, je pense que ça peut avoir un impact positif. Les femmes, je travaille avec les femmes. Et je peux dire aussi un exemple d'implication des femmes que nous avons réalisé. À un moment, il était arrivé où on avait fait l'évaluation de la participation des femmes à la vie publique. Et il s'est trouvé que le plus faible taux de participation des femmes, c'était dans les trois régions du Nord à l'époque. Et nous nous sommes dit, ben, il faut qu'on s'investisse de ce côté. Mais les gens pensaient qu'on voulait se battre pour avoir des postes de décision électifs, nominatifs, je dis non. Nous sommes allés vers les structures sociales de base, l'eau, la santé, l'éducation dans ces régions sont une priorité. Et autour de tout ça, il y a des comités de gestion. Il y a des comités de gestion de l'eau, des comités de gestion de l'école, des comités de gestion des centres de santé. Et l'analyse nous a montré que au niveau de ces centres, au temps A où nous on commençait à intervenir dans ces régions, il y avait très peu de femmes. Il n'y avait même pratiquement pas de femmes dans certains dans la gestion de certaines structures sociales de base. Donc, nous avons informé, sensibilisé les femmes pour qu'elles s'investissent. Parce que quand il s'agit de la santé de la femme elle-même d'abord, en tant que femme reproductrice, en tant que mère, ses enfants, son mari, les vieilles personnes qu'elle a à la maison, mais tout leur santé dépend de la femme. C'est elle qui les amène au centre de santé. C'est elle qui se charge de pouvoir leur donner les médicaments, etc. Mais si ce centre doit être géré, on met des hommes là-bas. Donc, moi, je pense, en échangeant, en informant les femmes, nous avons dit, c'est elles qui doivent quand même mettre dans ces comités de gestion leurs besoins. Pour dire, quand j'arrive au centre de santé, je voudrais que ça soit propre, je voudrais que ça soit comme ça, je voudrais que les médicaments soient disponibles. J'ai besoin d'une sage-femme là-bas, j'ai besoin d'un médecin, j'ai besoin d'un infirmier. C'est parce que c'est elle qui fréquente ces centres. Donc, moi, nous avons sensibilisé, les femmes ont envahi ces postes de prise de décision au niveau local. Ça n'a même pas été une bataille rude, parce que c'était quelque chose qui était là, qui était vraiment logique pour qu'elles puissent s'investir dans ces comités. L'eau. Les femmes sont plus concernées par l'eau que par les hommes. Donc, ainsi, petit à petit, ces femmes ont investi ces postes de prise de décision. Et une fois qu'elles ont senti, elles ont trouvé que mais le centre de santé, le comité de gestion de l'eau, la décision vient souvent du conseil communal, parce que le conseil communal va décider où mettre un centre de santé, où creuser un puits, où mettre une école, etc. Donc, elles ont dit, mais là-bas, c'est se trouve plus la décision. Et elles ont investi aussi les conseils communaux et au niveau de ces régions. Mais aujourd'hui, chacune de ces régions a au moins un député à l'Assemblée nationale. Tel n'est pas le cas à travers tout le Mali. Et ces députés, le plus souvent, sont nos produits. Parce que l'engagement, quand vous comprenez le processus, mais une fois que vous vous engagez, mais vous ne pouvez qu'aller de l'avant petit à petit. Donc, c'est des femmes qui se sont appropriées le processus de la gouvernance. Et elles se sont dit, nous devons aller où les décisions doivent être prises. Et ça n'a pas été du tout vraiment quelque chose de pour pouvoir réaliser un miracle. Mais quand même, elles sont allées petit à petit sans heurter aucune sensibilité, sans pouvoir se mettre à porte-faux avec leur tradition et leur culture, leur religion. Elles sont parvenues, elles sont là. On a une députée de Tessalit qui est là à l'Assemblée nationale du Mali, c'est une femme. On a une députée de Tombouctou, c'est une femme qui est là. Quand les gens voient ça, ils sont très étonnés. Mais ce n'est que le consensus, la compréhension du processus, et elles sont là. Donc moi, je pense que quand nous maîtrisons le processus, nous pouvons aller de l'avant.
Mais est-ce que vous avez entamé ces mêmes processus-là dans différentes zones, telles que le sud, le centre?
Bon, aujourd'hui, au sud, comme il a dit, il y a la loi de la promotion du genre. Cette loi, elle a été appliquée pendant les élections communales passées. Nous sommes passés de 12% à 22% aujourd'hui. Donc, je pense que nous avons fait un bond. Et je pense que petit à petit, mais quand même, moi, ma priorité, ce n'est pas avoir des femmes pour des femmes, c'est avoir des femmes renforcées, capables de pouvoir faire bouger les lignes. C'est ça. Les statistiques, là, souvent, c'est des statistiques, je ne dirais pas fausses, mais quand même, ça n'a pas d'impact. Si vous avez 50% de femmes qui ne savent pas pourquoi elles sont là, c'est que vous avez 0% d'impact. Donc, moi, je pense que celles qui ont pu vraiment être élues, il faut encore qu'elles soient renforcées. Parce que j'ai rencontré une femme conseillère. Depuis qu'elle a été élue, jusqu'à la fin de son mandat, elle n'est jamais venue à une réunion du conseil communal. Comment on peut s'expliquer ça? Donc, ça aussi, c'est des défis. Quand vous êtes élue, qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais m'investir? Et qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait un impact sur les droits des femmes? C'est là aussi où se trouve notre problème. Parce qu'il ne faut pas se faire élire pour se faire élire. Il faut se faire élire pour pouvoir faire bouger les lits. Voilà toute ma compréhension de l'impact.
Alors, Monsieur Ima, à part le manque de formation, pensez-vous qu'il y a d'autres défis auxquels ils font face? La jeunesse, les jeunes et les femmes.
Alors, avant de parler des défis, je voudrais dire juste un mot à propos de l'impact.
Oui, allez-y.
Et parce que c'était votre dernière question. L'impact est immédiat. Parce que l'impact, quand les femmes sont dans les instances ou les espaces de prise de décision, ça peut être au Parlement, ça peut être au gouvernement, ça peut être au niveau du Conseil ou ça peut être à travers les organisations communautaires. L'impact est là et le premier impact, c'est que ils ou elles sont là. Et à travers cela, c'est le droit à la participation politique, le droit à être présent dans les espaces de prise de décision. C'est un droit humain fondamental. Encore une fois de plus, comme je l'ai dit, aucun gouvernement, aucun gouvernant ne peut, au niveau local ou national, ne peut faire le bonheur du citoyen à sa place. Et seul le citoyen a la science et la connaissance de ses besoins, de ce qu'il ressent au quotidien, ce que la ménagère ressent au quotidien, les difficultés qu'il a pour joindre les deux bouts durant les 24 heures. Et cela me paraît extrêmement important. Et si elle est dans ces espaces, ça veut dire qu'elle va pouvoir s'exprimer. Elle va pouvoir dire là où la société a mal pour que cela soit pris en compte dans les politiques publiques. Et du coup, le résultat, c'est une offre de gouvernance de qualité, centrée sur les besoins des hommes et des femmes et des jeunes. Maintenant, les difficultés sont de plusieurs ordres. Les difficultés sont de plusieurs ordres et elles ne sont pas du même ordre du niveau local au niveau national. Il faut discriminer. Et quand on prend le niveau d'abord local, elles ont, quand on parle des femmes, ou ils ont, quand on parle des jeunes, parce qu'il s'agit de parler des jeunes et des
et
femmes.
Des femmes, oui.
Besoin de voir leur capacité organisationnelle se renforcer. Parce que ce n'est pas individuellement que les femmes vont aller au niveau du conseil communal pour dire on a besoin d'un forage, on a besoin de plus de médicaments, on a besoin d'un centre médical. Il faut que les structures au niveau communautaire soient renforcées pour qu'elles aient la capacité de s'organiser, d'exprimer les besoins collectifs de la communauté et de les faire remonter au niveau de la commune. Parce qu'encore une fois de plus, nous ne sommes plus à Athènes avec la démocratie directe. Et nous avons besoin que les femmes s'organisent au niveau communautaire et à travers leurs représentants et dialoguent avec les conseils communaux pour pouvoir intégrer leurs préoccupations dans les PDSEC et donc dans les politiques publiques au niveau local. Et c'est à cela que le NDI s'est attelé dans ces trois communes en essayant d'organiser et de renforcer les jeunes, d'organiser et de renforcer les femmes, et donc afin de créer de bons couloirs de communication avec les conseillers communaux. Et ça marche très très fort. Et à travers cette expérience pilote, ce sont des questions urgentes au niveau local, telles que l'assainissement, telles que la santé, telles que l'éducation. Ils et elles ont pu résorber plusieurs questions qui se posaient à ces communautés-là avant, en tout cas, le démarrage du projet. Et vraiment, chapeau donc aux communes de Sio, Konyakari. Et pourquoi? Parce que, en tout cas, c'est un très bel exemple qu'il faudra qu'ils partagent avec l'ensemble des autres conseils communaux. Et au niveau toujours et du local et du national, la vraie question, c'est d'abord l'emploi. On l'oublie assez souvent. Parce que quand le jeune ou quand la femme n'a pas un emploi rémunéré, la préoccupation, c'est d'abord la lutte pour la subsistance au quotidien. Et comment s'impliquer ou s'engager dans la collectivité ou dans des initiatives collectives et communautaires si on n'est pas solide intérieurement d'abord avec une position professionnelle, avec un emploi qui vous permet en tout cas de résoudre vos besoins de base, vos besoins fondamentaux. Et voilà pourquoi au niveau des conseils communaux des PDSEC, je pense qu'ils doivent, dans la programmation, accorder du prix, en tout cas en termes de planification, comment au sein de la commune créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Alors, au niveau encore du niveau national, parce que, puisque le thème central, c'est les secteurs sociaux de base, la santé, l'éducation, on revient encore au budget de l'État, Comment est-ce que et quels sont les pourcentages du budget de l'État qui sont consacrés, qui sont affectés à la santé? Et vérifier le budget le pourcentage du secteur du ministère de la Santé, du ministère de la Promotion de la Femme, du ministère de la Jeunesse. C'est à partir de là qu'on peut apprécier et évaluer le volontarisme politique pour résoudre les questions qui se posent aux jeunes et aux femmes. L'autre question, oui, je pourrais ajouter aussi l'éducation. Quel est le taux du budget national consacré à l'éducation? C'est ce qui permet de donner aux jeunes, les jeunes hommes ou les jeunes femmes, une éducation de qualité avec des compétences et des aptitudes pour s'insérer immédiatement dans le secteur professionnel. Et voilà un peu les défis qui se posent aujourd'hui et qu'il nous faut de toutes les manières, au niveau macro, au niveau national et au niveau local. Le local et le national, chacun a ses moyens et ses instruments pour résorber en tout cas l'ensemble de ces questions-là. Je pense que ce ne sont pas des défis insurmontables.
D'accord. Alors, Madame Boiré, qu'avez-vous ajouté comme défi au propos de Monsieur Imam?
Bon, ce que j'ai à ajouter comme défi, c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire comme il a parlé de niveau local, national, je dirais tout simplement que le premier défi aujourd'hui auquel nous sommes confrontés, c'est cette compréhension même de la démocratie au Mali. C'est un véritable défi pour nous. Parce que nous avons la majorité de la masse malienne pense que la démocratie, c'est faire tout ce qu'on peut. Ça, c'est un défi réel aujourd'hui, que ce soit au niveau local ou au niveau local. Parce que la démocratie est venue bouleverser notre tradition de gouvernance. Et ça a créé même un choc au sein de nos communautés. Donc, il faut aller vers cette éducation à la démocratie, que ce soit au niveau local. C'est vrai, les gens commencent à s'approprier petit à petit, mais jusqu'à présent, il y a de grosses lacunes en ce qui concerne cette compréhension. Et autre défi, c'est que la politique concernait uniquement les hommes. La femme politique est très mal vue dans nos communautés, dans nos sociétés. Donc, il faudra que nous puissions vraiment corriger l'image politique de la femme pour qu'on puisse comprendre qu'une femme politique, elle peut bien lier sa vie de femme politique, sa vie familiale et autres activités qu'elle mène. Mais une fois qu'une femme s'engage en politique, déjà, elle est mise au banc de la société et elle est traitée de tous les noms. Il y a aussi les questions de la relation homme-femme au sein de nos communautés. Vous savez, une femme au Mali est toujours dans un cadre. Elle est chez son père avant qu'elle ne se marie. Elle est chez son mari. Et même si elle est veuve, vous attendez souvent, il faut vous marier même à votre petit-fils pour pouvoir prier au nom de ce dernier. Donc c'est pour dire, il faut qu'il y ait un homme qui puisse vraiment avoir de l'ascendance sur vous. Donc ça, c'est un véritable handicap. Et ces relations hommes-femmes, les freins se traduisent même dans nos textes. Quand on dit que la femme, le mari est le chef de famille, la femme doit obéissance à son mari, c'est des interprétations souvent qui prêtent à équivoque et qui sont souvent de véritables freins pour la participation politique de la femme. Et ensuite, il y a, cette mauvaise interprétation aussi des questions de genre au Mali. Quand on dit genre au Mali, on voit uniquement la femme. Et aujourd'hui, le Mali a une politique nationale genre dont la mise en œuvre pose énormément de problèmes et de défis. Et donc ça, c'est des défis que j'ai pris comme ça au vol. Mais il y a énormément de défis pour les femmes et les jeunes pour pouvoir mieux trouver leur voie en ce qui concerne la participation politique.
D'accord.
Oui, Madame Togola.
Oui, juste en 30 secondes. Malheureusement, le temps nous fait défaut.
Voilà,
oui.
Peut-être bah, c'est, oui. C'est la première ou l'unique fois au cours de notre débat que je suis pas du même avis que ma sœur Bintou. Non, la démocratie n'a rien bouleversé. Heureusement encore que nous avons la démocratie. tout le diagnostic qu'elle vient de faire, tout le diagnostic des mots de la société qu'elle vient de faire tantôt, la démocratie les a trouvés. C'est le mode de fonctionnement et d'organisation de notre société traditionnelle. Heureusement encore que la démocratie est là, sinon notre continent et notre société auraient implosé. C'est parce qu'il y a la démocratie qu'il y a un cadre d'expression, qu'il y a un cadre de participation pour les jeunes qui n'avaient pas la voix dans la société traditionnelle, pour les femmes qui n'avaient pas la voix dans la société traditionnelle, pour la femme qui était au fond, en tout cas, du foyer, oui, qui n'avait pas la possibilité de sortir et de participer publiquement à tout ce qui s'est fait au sein de la société. Oui. Heureusement encore que nous avons...
Malheureusement, le temps nous fait défaut et cela me fait à ce débat sur l'implication, l'impact de la participation politique des femmes et des jeunes en tant qu'acteurs clés du processus de développement. Un grand merci à nos invités, Mme Boiré Bintou Founessamaké, présidente de Wildaf Mali, et merci à Dr Badie Ima, directeur exécutif de NDI. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Sedumbo. La régie vidéo est assurée par Peting Diara. C'est une réalisation et une coordination de Mohamedou Touré.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Haloud Mouni.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.